France Info.
Et bienvenue dans Les Informés, c'est parti pour une demi-heure de décryptage avec vous, Renaud Dely. Bonjour Renaud.
Bonjour Agathe.
On va parler de ce sursis accordé par le président à Sébastien Lecornu. Pourquoi faire ? On va parler de l'étau aussi qui se resserre sur le chef de l'État. Pour tout comprendre, pour décrypter nos informés ce matin, Pauline Thévenot, journaliste politique au Parisien aujourd'hui en France. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Et Étienne Gérard, directeur adjoint de la rédaction de L'Express. Bonjour Étienne.
Bonjour Agathe.
Renaud, cette question à la une aujourd'hui, Emmanuel Macron peut-il tenir ?
Pression maximale sur l'Élysée et sur le chef de l'État depuis donc ce nouvel épisode d'une crise politique qui en fait n'en finit pas depuis la dissolution et donc la démission hier de Sébastien Lecornu, troisième Premier ministre à démissionner depuis la dissolution, une pression qui s'accentue un peu plus ce matin avec cette proposition de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui réclame un Premier ministre de transition, quasi technique, entre guillemets, juste pour quelques semaines pour faire adopter le budget, le projet de loi de finances indispensable pour le pays, et qui souhaite que le chef de l'État, Emmanuel Macron, s'engage à démissionner une fois ce budget adopté pour organiser une présidentielle anticipée. Édouard Philippe, ce matin, chez nos confrères d'RTL.
Pour moi, la décision à la hauteur de sa fonction, c'est de garantir la continuité des institutions en partant de façon ordonnée. On peut très bien imaginer que dès lors que le budget est adopté, le président, un mois, deux mois, trois mois, c'est à lui qu'il appartient de prendre cette décision. Disent, voilà, on ne va pas faire durer ce que nous vivons depuis six mois, pendant 18 mois encore. C'est beaucoup trop long, et ça nuit à la France, et encore une fois...
Et qu'ils le disent aujourd'hui, avant de nommer ce Premier ministre.
Je pense que ce serait de nature à donner un peu de visibilité à tout le monde.
Alors, cette prise de position n'est pas sans rappeler pour les plus anciens l'appel de Rome d'un autre ancien Premier ministre, c'était Georges Pompidou en janvier 1969, qui avait fait savoir qu'il serait candidat si le général de Gaulle se retirait, ce qui s'est produit d'ailleurs quelques mois plus tard, bref. Mais revenons-en à l'actualité, cette prise de position est encore plus brutale d'ailleurs que celle de Georges Pompidou à l'époque. Est-ce qu'Édouard Philippe peut être suivi ? Est-ce que finalement c'est une solution pour sortir de la crise ? Et est-ce qu'à force justement... quelque sorte de bricoler, de nommer les premiers ministres les uns après les autres, de refuser aussi jusqu'à présent de dissoudre l'Assemblée nationale, le chef de l'État se met pas un peu plus en danger et ne suscite pas ces appels désormais à une présidentielle anticipée que vient de concrétiser ce matin Édouard Philippe.
Alors effectivement, je suis d'accord avec vous Renaud, c'est plus brutal que Georges Pompidou. Qu'est-ce qui lui arrive à Édouard Philippe ? Alors certes, il avait déjà appelé une accélération du calendrier, mais aujourd'hui, dans ce contexte, appeler une présidentielle anticipée, c'est pour Emmanuel Macron, c'est plus que la rupture là, Pauline Thévenot. Qu'est-ce qu'il cherche ?
Absolument. Et je pense qu'il ne faut pas galvauder ce moment parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bruit politique. Et on a, comme vous le disiez, Renaud, vu un nombre incalculable de crises depuis la dissolution de l'été 2024. Je pense que là, on n'exagère pas quand on dit que c'est la crise la plus lourde et la plus dangereuse qu'Emmanuel Macron traverse depuis qu'il a dissous en juin 2024. Édouard Philippe, jusqu'à présent, il disait que... au fond, les deux années restantes du quinquennat d'Emmanuel Macron ne seraient pas utiles, serviraient à rien. C'était pas déjà très engageant. Mais là, il franchit clairement un cap. Et ce qui est très, très dangereux, encore une fois, pour Emmanuel Macron, c'est que jusqu'ici, les appels à la démission ou les scénarios d'une présidentielle anticipée venaient de ses adversaires. Au plus près de lui, ça venait des Républicains. Il y avait déjà un petit gap qui avait été franchi quand un parti des responsables d'un parti de gouvernement avait évoqué ce scénario.
Par exemple, là, Jean-François Copé, Valérie Pécresse.
Exactement. Exactement. On avait déjà franchi un cap. Là, ça vient de son premier ministre, celui qu'il avait nommé en arrivant président en 2017, qui est censé être l'un de ses alliés. Et qu'est-ce qu'il dit, Édouard Philippe, le sous-texte, c'est... certes, la situation est bloquée, certes, il ne peut plus rien se passer, mais au fond, le problème, c'est Emmanuel Macron, c'est lui. Et il faut qu'il parte. C'est ça le sous-texte de son intervention de ce matin.
C'est le coup de grâce, Étienne Gérard, pour Emmanuel Macron, cette déclaration d'Édouard Philippe ?
C'est trop tôt pour le dire, mais c'est un lâchage assez vertigineux, ça c'est sûr. Parce qu'Emmanuel Macron, il a fabriqué politiquement Édouard Philippe. Il existait, il était maire du Havre. Mais l'homme politique national, c'est Emmanuel Macron qui l'a fabriqué. Je rapprocherai ce propos de celui moins violent, mais quand même, hier, de Gabriel Attal, expliquant qu'il ne comprend plus le président de la République de la même façon. Gabriel Attal, il est né à la politique, il a été élu sous la bannière En Marche d'Emmanuel Macron. Sa vie politique est calquée jusqu'à présent sur celle d'Emmanuel Macron. Si Édouard Philippe, Gabriel Attal, deux de ses premiers ministres, lâchent comme ça Emmanuel Macron, c'est que oui, il y a un problème personnel et que la crise, de leur point de vue, le discrédit, se forme autour de l'actuel président de la République, dont beaucoup autour de lui ne comprennent plus les choix et l'entêtement.
Il peut résister à ça, Renaud Delis. On a changé de dimension, là, avec ses critiques, quand même, du cercle le plus proche.
En fait, ce cercle le plus proche qui nous fait, vous avez raison, changer de dimension, Gabriel Attal, qui n'en est pas encore à l'appel à la démission d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe qui a franchi ce pas, ce ne sont pas eux qui... il ne faut que constater l'état de l'opinion. C'est-à-dire que l'opinion est en colère contre Emmanuel Macron. Pas tant contre Sébastien Lecornu, que d'ailleurs pas grand monde ne connaissait dans le grand public il y a encore un mois et demi. Il était ministre depuis 8 ans, mais c'était un ministre particulièrement discret, même s'il il occupait des fonctions éminentes. En revanche, on voit bien que Emmanuel Macron est la cible d'un rejet massif de l'opinion qui considère que c'est lui la source du problème et la source du blocage politique. Pourquoi ? Parce qu'il y a maintenant 16 mois, il a procédé à cette dissolution que personne n'a compris. Donc, Édouard Philippe, il en tire les conclusions de façon radicale, certes et brutale, bien sûr. L'étau se resserre, comme vous disiez. Hein, le départ d'Emmanuel Macron, c'est parti d'abord de Jean-Luc Mélenchon et de sa proposition réitérée de destituer le président de la République. On a entendu ensuite quelques voix à droite, Valérie Pécresse, Jean-François Copé, quelques autres. Et maintenant, c'est Édouard Philippe. Et tout ça, ça renvoie Emmanuel Macron, en fait, à l'alternative qui est en train de se dessiner pour lui, c'est que si jamais il se refuse à dissoudre l'Assemblée nationale, et s'il nomme un quatrième Premier ministre ou un négociateur pour gagner peut-être encore du temps, c'est l'impression que ça a pu donner, sa décision de maintenir finalement, en tout cas de redonner deux jours de sursis en quelque sorte à Sébastien Lecornu, il risque de se fragiliser encore plus, d'être encore plus menacé et d'être effectivement lâché maintenant par une grande partie de son camp qui réclamerait son départ.
Est-ce qu'il peut reprendre la main, le chef de l'État, Pauline ? Qu'est-ce que peut faire Emmanuel Macron aujourd'hui ?
Ça semble très très difficile d'entrevoir la solution, comme le disait Renaud. À l'instant, là, il s'est accordé 48 heures, en fait, hier, en demandant à Sébastien Lecornu de poursuivre des négociations dont, au fond, on connaît le résultat, puisque ça fait 3 semaines qu'il discute avec les mêmes. Et ce qui est spectaculaire, je trouve, depuis hier, c'est que Emmanuel Macron, il a essayé de gagner 48 heures, et en fait, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une minute de répit dès hier soir. Il était à nouveau sous la mitraille. Personne s'est dit, eh ben, on va tourner tous les projecteurs vers Matignon et regarder si Sébastien Lecornu peut s'en sortir. Et vous parliez tous deux de la déclaration de Gabriel Attal hier soir. Certes, il n'en est pas appelé sa démission, mais il parle d'une forme d'acharnement à garder le pouvoir. Quel est le sous-texte de ça ? C'est de, enfin, évidemment,
les mots sont extrêmement violents.
Absolument. Sur le papier, ça fait référence au fait qu'en nommant Sébastien Lecornu et en se mêlant du remaniement ou de la composition du gouvernement, il a essayé de garder la main. Oui, mais le sous-texte, acharnement à rester, c'est ça qu'on entend quand Gabriel Attal dit ça. Donc la seule solution là, pour Emmanuel Macron pour en réchapper, c'est de trouver un paratonnerre, finalement, pour ne pas pour cesser de prendre la foudre. Mais on a bien du mal à voir lequel il pourrait être.
On a compris, le président ne veut pas forcément dissoudre Étienne Gérard.
Il a encore des armes constitutionnelles. Alors, je mets de côté le discrédit dont il est l'objet, mais théoriquement, il a des armes. Il y a la possibilité de nommer un Premier ministre d'un bord différent, par exemple venu de la gauche. On a cru comprendre que c'était une des hypothèses évoquées. Il y a évidemment la dissolution. Et il y a aussi la possibilité, ça a été beaucoup évoqué ces derniers mois, il ne l'a jamais fait, de procéder à des lois par référendum, puisque le Parlement ne veut pas accorder sa confiance à ses gouvernements, d'enjamber le Parlement, d'utiliser l'article 11 de la Constitution et de redonner la parole aux Français, non en convoquant de nouvelles élections, mais sur des projets précis sur lesquels ils devraient dire oui ou non. Ça, c'est très théorique et j'ai bien conscience qu'il y a aussi une part personnelle de discrédit qui touche Emmanuel Macron sur sa personnalité, sa façon de mener le pouvoir. Et là, la solution, elle est beaucoup plus compliquée à imaginer.
Renaud ?
Parce que les alternatives que vous évoquez, Étienne Girard, elles sont justes, c'est vrai, mais elles ont toutes d'énormes problèmes. La gauche, nommée un Premier ministre de gauche, la gauche aujourd'hui, hors insoumis, puisque les insoumis sont dans une autre stratégie et que la gauche s'est divisée, c'est 123 députés. Pourquoi est-ce que ça fonctionnerait mieux à 123 députés dès lors que la non-majorité de 210 députés, Bloc Central plus LR, n'y parvenait pas ? Évidemment, un Premier ministre de gauche, a priori, serait censuré.
Alors Fabien Roussel dit, on discuterait, parce que je l'interroge,
oui, c'est
123
tout ça,
députés.
Oui, oui.
Et il dit, oui, on pourrait travailler avec Gabriel Gabriel Attal. On a des contacts avec des macronistes, des horizons,
bien sûr,
des modems.
Bien sûr, ça ne vous rappelle pas Sébastien Lecornu, ça ne vous rappelle pas François Bayrou, ça ne vous rappelle pas Michel
Barnier. Ils disaient tous qu'ils pouvaient y arriver.
Ils discutent tous. Le problème n'est pas de discuter, ça, ils discutent, ils se parlent, mais ils ne se mettent pas d'accord. Donc ça paraît peu probable. La question du référendum, d'ailleurs, souvenez-vous, hein, Emmanuel Macron l'avait lui-même évoqué lors de ses vœux télévisés, je redonnerai la parole aux Français. Pourquoi pas ? Le problème, c'est que dès lors que l'initiative vient du président de la République, au regard de son impopularité actuelle, l'initiative, elle est affaiblie, si ce n'est discréditée, immédiatement. Reste donc l'hypothèse de la dissolution. Et si Emmanuel Macron s'y refuse, comme d'ailleurs d'autres responsables d'autres partis politiques, hein, en particulier LR ou le PS, ne la souhaitent pas, c'est pour une raison bien particulière, c'est que la raison essentielle, c'est parce que Marine Le Pen, elle la souhaite. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la chef de file de l'extrême droite hier, qui a posté cette vidéo précisément sur l'alternative qui s'offre, selon elle, au chef de l'État.
En ces heures, le chef de l'État dispose de deux voies possibles, soit la démission, soit la dissolution. La démission relève de la conscience d'un homme, de son sens de l'État et de rien d'autre. La seconde option, je dis bien la seconde option et non la deuxième, parce qu'il n'y en a pas d'autre, c'est la dissolution. Elle est à nos yeux irrémédiable.
Il n'a pas le choix à entendre Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Pauline. Vous êtes d'accord ? Il est acculé ?
Ah ben, il est clairement, non pas au pied du mur, mais face au mur. Il reste effectivement l'hypothèse de la dissolution. Et d'ailleurs, son entourage disait hier, juste après qu'il a confié cette ultime mission impossible à Sébastien Lecornu, qu'il prendra ses responsabilités si ça échoue.
Oui, mais on ne savait pas ce que ça voulait dire, cette phrase.
Oui, et alors clairement, dans les options sur la table, il y a la dissolution. Et quand l'entourage ou les proches d'Emmanuel Macron disent « tout est sur la table », il y a effectivement les options nomination d'un Premier ministre, soit issu du socle commun, de gauche ou d'un profil technique, mais il y a évidemment la dissolution.
Mais ça réglerait quoi la dissolution, Étienne Gérard ? On a vu ce qu'a donné la précédente, c'est pour avoir une assemblée fragmentée à nouveau ou pour donner les clés du pouvoir au Rassemblement national ? C'est ça que veut le Président ?
C'est tout le problème de la situation, effectivement. On tend à perdre de vue que la situation politique et l'absence de majorité n'est pas liée à Emmanuel Macron. Certes, il y a eu la dissolution, ce choix que personne n'a compris d'Emmanuel Macron, etc. Le fait qu'il y ait trois blocs à l'Assemblée nationale, il faut bien mesurer ça. Ça peut arriver à tout le monde. C'est les Français qui ont voté comme ça. Ils peuvent revoter de cette façon-là la prochaine fois. Ils pourraient revoter de cette façon-là même après une présidentielle anticipée. Tout ça pour dire que on pense qu'à Emmanuel Macron parce que il est au centre du jeu actuellement. Mais même si Emmanuel Macron disparaît du jeu, cette question de l'absence de majorité au Parlement, à l'Assemblée nationale dans le pays, elle restera posée et à un moment se posera la question du travail entre les forces politiques, parce qu'au bout du compte, il n'y a que ça. Il n'y a que des compromis et des coalitions s'il n'y a pas de majorité pour avoir un pouvoir stable en France.
Renaud, je vous vois faire une moue assez sceptique.
Oui, c'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout, cette question de l'absence de majorité.
C'est pas sûr, mais c'est pas exclu.
On entend les sondeurs. C'est pas exclu, bien sûr. La seule façon de le savoir, c'est de faire voter les Français. C'est-à-dire qu'on entend les sondeurs qui se succèdent en disant, de toute façon, ça ne changerait pas grand-chose. Les rapports de force n'ont pas changé. On se souvient que les mêmes, d'ailleurs, avaient un certain nombre de prévisions qui ne se sont pas confirmées lors de la dernière élection législative, celle de juin 2024, donc il faut prendre tout ça avec une grande prudence. C'est pas sûr du tout que le Rassemblement National n'ait pas une majorité absolue ou relative, une majorité relative qui permette, par exemple, au RN peut-être de décrocher ce qui reste de la droite. On voit bien qu'il y a toute une partie de LR qui maintenant penche de plus en plus de ce côté-là. Il est pas du tout évident que la gauche, peut-être ne progresse un peu, etc. Ça, c'est évidemment beaucoup plus hypothétique. C'est vrai qu'on voit bien que les macronistes sont pas en grande forme et qu'a priori, eux, ils perdraient des plumes. Mais surtout, la seule façon de savoir, c'est de renvoyer la responsabilité aux électeurs. Et c'est même une façon pour Emmanuel Macron de se protéger. Et l'argument qui consiste à dire, et qu'on entend, et qui peut être tout à fait légitime d'un point de vue partisan, bien sûr, oui, mais ça ferait gagner l'extrême droite et l'extrême droite arriverait au pouvoir. C'est tout à fait légitime et compréhensible que ça inquiète une bonne partie des électeurs, une bonne partie des Français. Mais c'est pas un argument suffisant d'un point de vue politique, institutionnel et même démocratique pour refuser de dissoudre. Et il y a un paradoxe, c'est qu'il y a un peu plus d'un an, personne n'a compris pourquoi Emmanuel Macron avait décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on s'oriente de plus en plus vers l'idée que personne ne comprendrait qu'il ne finisse pas par le faire, parce qu'en plus, en s'obstinant à ne pas le faire, il risque de se mettre lui-même en danger, parce que l'autre hypothèse ensuite, c'est son départ.
Les informés, Renaud Dely, Agathe Lambret.
Les informés avec Pauline Thévenot, journaliste politique au Parisien aujourd'hui en français. Étienne Girard, directeur adjoint de la rédaction de l'Express. Renaud, Sébastien Lecornu, 48 heures pour faire ce qu'il n'a pas réussi à faire en un mois.
48 heures, c'est vrai que ça sonne comme un titre de série américaine. D'ailleurs, tic-tac, tic-tac, le temps passe, il n'en reste plus que 36 ce matin. Mais hier soir, le chef d'État lui a accordé 2 jours de plus pour essayer de négocier ce qu'il appelle une plateforme de stabilité et programmatique, justement une plateforme d'action et de stabilité pour le pays. Il reçoit d'ailleurs ce matin le Premier ministre démissionnaire, un de plus, les présidents des deux assemblées, Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet, les chefs des partis du socle commun qui est de moins en moins commun, et puis Bruno Retailleau, lui, a souhaité un tête-à-tête, ou un face-à-face, on interprétera ça comme on veut, ce qui en dit long sur la confiance entre les deux hommes. Sébastien Lecornu qui, quand même, hier, en présentant sa démission, disait que, bon, il avait pas réussi, vous le disiez, mais qu'on n'était pas si loin du but.
On ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies. Les partis politiques continuent d'adopter une posture comme s'ils avaient tous la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il suffirait de peu pour que l'on puisse y arriver, en sachant aussi faire preuve d'effacement de certains égos. Il y a beaucoup de lignes rouges dans la bouche de beaucoup, pas de tous. Il y a rarement des lignes vertes, mais il faut toujours préférer son pays à son parti.
Qu'est-ce qu'il peut faire pendant ces 36 heures qui lui restent, Sébastien Lecornu, Pauline Thévenot ?
Alors, le pari d'Emmanuel Macron, parce qu'il faut quand même rappeler que ces 48 heures supplémentaires de négociation, c'est l'idée d'Emmanuel Macron. Et c'est lui qui a demandé à Sébastien Lecornu de le faire, qui s'est exécuté en moine soldat, comme il dit. Et l'idée d'Emmanuel Macron, c'est de dire qu'au fond, hier, les forces politiques se sont fait peur. Se sont réveillés lundi matin en prenant conscience, en étant saisis par la crise qu'elles avaient engendrée. Et il a entendu Bruno Retailleau sur le plateau du 13h dire qu'il voulait avancer sur le fond, les socialistes dire qu'ils ne voulaient pas de dissolution. Et avec se dire qu'il y avait peut-être un trou de souris à minima pour ressouder le socle commun. Sauf que patatras, on voit bien que ça va être très très compliqué, rien qu'avec ce fait que Bruno Retailleau ne soit pas à la réunion.
Il a refusé d'y aller, il a demandé un tête-à-tête avec Sébastien Lecornu.
Voilà, en ce moment même à Matignon. Donc au fond, et on a pu voir que Hervé Marseille de l'UDI hésitait à s'y rendre, que Édouard Philippe finalement y va, mais après avoir laissé planer le suspense. Donc on voit bien que plus rien ne tient ce socle commun ensemble. Et ce qui est frappant, c'est de voir que des formations qui sont minoritaires à l'Assemblée, les Républicains, 50 députés, le Parti Socialiste, 66, appellent à une cohabitation sans avoir la majorité. Donc c'est exactement ce que disait Sébastien Lecornu, qui apparaît, et je trouve que c'est un parallèle, il y en a peu, mais entre lui et François Bayrou, très désabusé sur l'état des forces politiques du pays et sur leur capacité à coopérer.
Des partis minoritaires incapables de se mettre d'accord. Étienne Girard, quand vous voyez l'attitude de Bruno Retailleau qui refuse de se rendre à cette réunion du socle commun, vous dites quoi ? C'est fini le socle commun avec LR ? Ou Sébastien Lecornu peut encore essayer de recoller les morceaux ?
Non, à court terme, il est clairement abîmé, il n'existe plus le socle commun. Le refus de Bruno Retailleau montre qu'à ses yeux, Sébastien Lecornu est totalement démonétisé et on imagine difficilement, dans 48 heures, la situation changer. Emmanuel Macron a tenté un énième pari. C'est la vieille technique de l'ultimatum. On va faire peur à tout le monde en donnant une deadline. Le problème, c'est que pour que ça marche dans une négociation, il faut, un, que les acteurs en face aient un intérêt à mener à bien la négociation. Là, on comprend pas très bien, la situation est tellement abîmée, quel serait leur intérêt, ce qu'on pourrait leur offrir en échange. Et deux, il faut avoir peur de la conséquence. Et mon sentiment, en écoutant les acteurs depuis hier, c'est que plus personne n'a peur de la dissolution, hormis les macronistes. Et encore, quand on écoute Gabriel Attal, on a l'impression qu'il a lui aussi quasiment tourné la page. Puisque plus personne n'a peur de la dissolution, comment imaginer que ce qui n'a pas marché en 4 semaines pourrait marcher en 48 heures aucune chance.
C'est vrai que c'est l'ultime carte d'Emmanuel Macron, c'est la grande trouille de la dissolution pour ramener tout le monde à resserrer les rangs en quelque sorte. Il n'est pas du tout sûr, ça je suis d'accord avec Étienne Girard, que ça fonctionne. Et en fait, si on refait le film des dernières semaines lors desquelles Sébastien Lecornu a essayé de discuter et a discuté avec les uns et les autres, il y a quand même un phénomène aussi qui est assez surprenant. Il y a un épisode qui est assez surprenant, c'est qu'il a quand même été jusqu'à dire à répéter qu'il était le plus faible de tous les premiers ministres, que le pouvoir était au Parlement, et d'ailleurs qu'il s'engageait à ne jamais utiliser le 49-3. Et tout ça n'a pas convaincu, n'a pas incité les groupes parlementaires, de droite comme de gauche, finalement à se dire, eh bien, saisissons-nous de ça, et justement, ensuite, discutons au Parlement de telle ou telle hypothèse, notamment sur le budget. Comme si, finalement, les parlementaires eux-mêmes, les partis politiques aujourd'hui, n'avaient pas envie de se saisir du pouvoir qu'ils auraient pu utiliser au regard de l'affaiblissement de l'exécutif actuel. Ça, je trouve que c'est très, très frappant. On en vient à se demander, en regardant l'ensemble...
Ils veulent pas s'abîmer en attendant...
Ils veulent pas, ils sont juste obsédés par l'élection présidentielle de 2027 et leurs petits intérêts. Mais effectivement, user finalement du pouvoir parlementaire qui leur tendait les bras enfin, ça a pas l'air de les préoccuper. Et on en vient par se poser la question, quand on regarde ce petit jeu assez désespérant depuis quelques semaines, s'il y a encore un adulte dans la pièce.
Eh ben, c'est la question qu'on va se poser encore longtemps, je pense, dans les jours qui viennent. Merci beaucoup, les informés. Pauline Thévenot, journaliste politique au Parisien, aujourd'hui en France. Merci, Étienne Girard, directeur adjoint de la rédaction de L'Express. À la une de L'Express, cette semaine.
Des révélations sur les meilleurs espions du monde, les Israéliens du Mossad, courez l'acheter dans tous les bons kiosques.
Dans les meilleurs kiosques, uniquement. Merci, Renaud.
Merci, Agathe.
Vous retrouvez les informés ce soir à 20h avec Victor Maté.